Bonjour, ici Jean-Daniel Messinger qui vous propose le nouveau numéro de Chronique pour la paix sur Radio Shalom, émission bimensuelle parrainée par J-Call et La Paix Maintenant. Nous sommes aujourd'hui avec Michel Kishka à l'occasion des 10 ans de l'attentat à Charlie Hebdo, où entre autres 5 dessinateurs très populaires avaient trouvé la mort. Attentat suivi par un autre, clairement antisémite, le 8 janvier suivant. Cette commémoration a été l'occasion de parler à nouveau de la caricature, de la liberté de se moquer, voire du blasphème. Dans ce contexte, nous avons choisi de consacrer notre émission à la caricature politique vue d'Israël avec Michel Kishka. Michel Kishka vit depuis plus de 50 ans maintenant en Israël, où il est l'un des auteurs les plus importants de la bande dessinée et de la caricature politique. Il a publié chez Dargo en 2018 Falafel sauce piquante, puis en 2023 L'autre Jérusalem, qui sont des récits autobiographiques dans lesquels, notamment, on y retrouve sa vision d'Israël. Rappelons aussi sa bande dessinée de 2012, Deuxième Génération, Ce que je n'ai pas dit à mon père. Il a publié de nombreux dessins contre le racisme et l'antisémitisme. Il est président de l'Association des caricaturistes israéliens et un des piliers de Cartooning for Peace. Bonjour Michel Kishka.
Bonjour Jean-Daniel, je suis président sortant.
Ah, d'accord.
Jusqu'en 2010, mais je l'ai été.
D'accord. Ok. Donc juste en préambule, est-ce que tu peux expliquer rapidement à nos auditeurs ce qu'est Cartooning for Peace ?
Le Cartooning for Peace, c'est une association qui est née suite aux émeutes qu'il y a eu après la publication des caricatures de Mahomet au Danemark et qui a suscité des manifestations très virulentes. C'était, la publication, c'était en septembre 2005. Les manifestations dans le monde musulman ont été en février 2006 et ça a provoqué un énorme tollé mondial. Et à l'époque, Kofi Annan, qui était secrétaire général des Nations Unies et qui était un lecteur du Monde et qui était un admirateur de Plantu, lui a dit on devrait organiser un séminaire aux Nations Unies à New York sur le thème de désapprendre l'intolérance, de voir un peu où sont les limites, quels sont les problèmes, qu'est-ce qui s'est passé. Et finalement, ça a fait boule de neige. Oui, on a eu en octobre 2006 12 dessinateurs. Je ne dirais pas du monde entier, il y a plus que 12 pays dans le monde, mais il y avait 2-3 Américains, un Japonais, un Palestinien et moi, il y avait Plantu, il y avait un Égyptien, il y avait un Kenyan. Donc il a réuni des dessinateurs un Danois pour parler en fait, pour présenter chacun. Mmh. Chacun présente un peu sa vision du monde de la caricature et finalement, il y a une dynamique qui s'est enchaînée et qui a fait que les Nations Unies à Genève ont voulu que nous fassions le même type de rencontre, mais cette fois-ci en français. Et puis de là, c'est devenu une association qui, au départ, comptait une cinquantaine de dessinateurs, qui étaient des dessinateurs importants dans les pays importants. Mais aujourd'hui, voilà, on est déjà 350.
Ah,
et on est tous animés par un désir de pouvoir s'exprimer librement où qu'on soit et de faire des caricatures qui sont provocatrices et en même temps tolérantes et respectueuses. Ça paraît impossible, mais c'est possible parce qu'on peut faire des caricatures très haineuses qui peuvent finalement provoquer de la violence par après. Mm-hmm. Et l'histoire l'a montré. Voilà. Donc c'est un peu ce qui nous anime et surtout, et là, disons, c'est une particularité qui s'est beaucoup développée depuis les attentats à Charlie Hebdo, c'est que de plus en plus, les dessinateurs qui font partie de ce groupe, de cette association, surtout en France, mais pas que en France, sont appelés à intervenir dans des milieux scolaires pour expliquer aux enfants et aux adolescents et aux préadolescents ce qu'est la démocratie, ce qu'est la presse libre, ce qu'est la liberté d'expression, pour un peu faire parler les enfants, mais surtout peut-être pour les aider à comprendre ce qu'est la caricature et quel est son rôle. Et finalement, la caricature qui n'est pas un outil pédagogique le devient.
D'accord.
Et c'est une chose nouvelle.
Ok, merci. Donc du coup, malgré la situation actuelle, Le souvenir de cet attentat en France de Charlie Hebdo, dont on vient de parler, est-ce qu'il a eu un écho en Israël au sein de la population et des médias ?
Il a eu un écho dans le monde entier.
Oui.
Dans le monde entier. Et dans le monde entier, c'était la première fois que des personnes entendaient parler de Charlie Hebdo. Parce que si on n'est pas français, on ne sait pas ce que c'est, en fait. Okay. Ou si on n'est pas francophone, et si on n'a pas eu l'occasion d'avoir ce journal entre les mains, on n'a aucune idée de ce que c'est. Et donc, cet attentat, bon, il y avait quand même 12 personnes qui ont été assassinées ce 7 janvier 2015, parmi lesquelles il y avait 5 caricaturistes, parmi lesquelles il y avait 3 qui étaient les fondateurs de Charlie Hebdo. Ouais. Il y avait Wolinski, il y avait Cabu,
il y avait Honoré.
Voilà. Mais Cabu et Wolinski, ils étaient dessinateurs de la première heure. Ils étaient déjà dessinateurs à Harakiri,
oui.
qui est l'ancêtre de Charlie Hebdo. Et ils étaient les mentors de la jeune génération, de la nouvelle génération, de Tignos, de Charb et de tous les autres. Donc, évidemment, ça a eu un écho partout. Ça a beaucoup choqué, d'autant plus que ça a été suivi par l'assassinat de la policière le 8 et pour Hyper Kacher le 9, et aussi marqué par des manifestations, très grandes manifestations dans les grandes villes de France le 11 janvier. On parle de 3 à 4 millions de Français et de fameux slogans « Je suis Charlie ». Donc le monde a été secoué par ce qui s'est passé.
Oui.
Et moi, en Israël, étant donné que la France est une république laïque et que Charlie Hebdo est un électron libre, qui est un journal satirique indépendant, et que nous ne sommes pas en Israël une république laïque, et que nous n'avons pas un magazine satirique indépendant, je suis beaucoup intervenu dans les médias israéliens pour expliquer ce qui se passe en France,
d'accord.
pour expliquer quel est un peu ce modèle de société qu'il y a en France et les lois qui protègent cette liberté d'expression et le fait que le blasphème ne soit pas inscrit dans les lois. Donc
alors,
je pense que j'ai tout fait pour essayer de faire l'intermédiaire entre ce qui s'est passé en France et pour aider les Israéliens à mieux comprendre.
Alors en France, Charlie Hebdo continue courageusement sa mission. Donc, et vous disiez qu'en Israël, il n'y a pas vraiment de journal comme Charlie.
Il n'y a pas qu'en Israël. Je pense qu'il n'y en a pas en Amérique. Il n'y en a pas en Chine. Il n'y en a pas en Russie. On peut regarder la carte du monde. Il y a peut-être qu'en Angleterre, qui a eu un journal satirique aussi mordant qui s'appelait à l'époque Punch Magazine, mais qui n'existe plus, et qui a tenu presque 100 ans. Et c'est vraiment quelque chose d'assez unique. Et en plus, en France, c'est presque doublé du Canard Enchaîné.
Mm-hmm.
Je veux dire, par là, il y a deux journaux qui sont assez
incisifs.
Quand on regarde le paysage du monde, même, parlons du monde démocratique. Même dans les grandes démocraties, on n'a pas une telle liberté de ton et de dessin comme il y a dans ces deux journaux.
Alors comment s'exprime la caricature politique en Israël ?
La caricature politique en Israël,
le dessin de presse.
D'abord, sa place, elle est née, comme en France, au 19e siècle, dans la presse. Donc elle est née dans la presse en Israël, c'était à l'époque qui était avant la création de l'État. Et depuis, c'est quelque chose qui s'est développé, et il fut un temps où il y avait une presse quotidienne papier très, très variée. Il y avait énormément de journaux, comme en France. Énormément de journaux. Et chaque journal avait un caricaturiste. Et les journaux avaient une couleur politique très claire. Comme, allez, parlons en France de Libération et du Figaro, d'accord, ben il y avait Haaretz, il y avait Maariv, il y avait toute une presse israélienne où la couleur était généralement connue, elle était généralement claire, les points de vue, et puis les dessinateurs de presse qui travaillaient dans ces journaux généralement s'identifier à la ligne du journal. C'est un peu comme ça que les choses ont toujours fonctionné dans la tradition du dessin de presse.
Il suffit de voir la
presse en France à l'époque du procès Dreyfus. Il y avait la presse pro-Dreyfusard et anti-Dreyfusard, avec des dessinateurs qui étaient pro et d'autres qui étaient anti. Donc il y avait vraiment de tout à ce moment-là, et c'est comme ça un peu que ça s'est fait en Israël.
Et en Israël, est-ce que tous les sujets sont traités, y compris celui de la religion et des Palestiniens ?
Alors oui, mais je termine ce que j'ai expliqué avant, c'est que bon, les journaux ont fermé les uns après les autres, la presse papier s'est réduite, les journaux qui ont eu la possibilité de faire un site l'ont fait. Et puis finalement, il y avait des journaux qui avaient un site. Maintenant, il y a des sites qui ont des journaux et il y a des sites qui n'ont plus de journaux. Donc, les plateformes dans lesquelles les dessins apparaissaient étaient plus nombreuses avant qu'aujourd'hui. Ça, ce n'est pas que propre à Israël. Beaucoup de journaux ont fermé dans le monde. Alors, la situation aujourd'hui, on peut dessiner sur tout, mais il y a des sujets qui sont plus délicats,
sensibles, ouais.
Qui sont plus sensibles. Et disons, vous me posiez la question, est-ce qu'on peut dessiner sur les religieux ? Bien sûr qu'on peut dessiner sur les religieux. Et on peut dessiner sur les religieux, pas parce qu'ils sont religieux. On peut dessiner sur les religieux parce qu'ils ont des partis politiques, ils ont des élus à la Knesset, et pas que des députés, il y a aussi des ministres. Ils sont à la tête de certaines commissions, dont la commission des finances, dont beaucoup d'autres commissions. Ils sont à la tête du ministère du logement, du ministère de l'intérieur. Ils promulguent des lois. Ils refusent de faire le service militaire. Je veux dire par là, ils sont dans la vie politique. Et quand on les dessine, comme on dessine tous les représentants des autres partis, c'est pour critiquer leur politique. Ou pour la soutenir. Parce qu'il y a aussi, il y a aussi une presse orthodoxe qui aujourd'hui, et ça c'est un fait relativement nouveau, qui remonte à plus ou moins il y a une vingtaine d'années, il y a aussi des caricatures dans la presse orthodoxe.
D'accord.
Avant ça, il n'y en avait pas, puisque la représentation, la figuration humaine était contraire aux préceptes des orthodoxes. Mmh. Alors que maintenant, il y a plein de dessinateurs orthodoxes dans la presse. Il y a une presse orthodoxe ashkénaze, il y a une presse orthodoxe séfarade, et chacun a ses dessinateurs.
Okay.
Et le seul hic, c'est que nous, notre association, on est, je sais pas, une cinquantaine qui recoupe trois générations. Il y a les vétérans qui sont autour, il y a deux, trois octogénaires. Il y a la génération intermédiaire dont je fais partie, et il y a les plus jeunes. On a une association, il y a un musée de la caricature, on a beaucoup d'activités, des expositions, des publications annuelles, et on a plusieurs fois proposé aux dessinateurs qui travaillent dans la presse orthodoxe de se joindre à nous et d'exposer avec nous et de publier avec nous, mais pour le moment, ils ne sont pas encore parvenus à accepter.
D'accord. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé depuis le 7 octobre 2023 sur la caricature, sur le dessin politique un peu ? Est-ce qu'il y a une forme d'autocensure qui s'est installée ou pas ?
De l'autocensure, il y en a toujours eu. Et ça n'avait aucun rapport avec les événements historiques. C'est, disons, avec un événement historique particulier. D'accord ? Tous les dessinateurs, partout où ils sont, qui travaillent avec la grande presse, je parle justement pour un peu la différencier d'un journal satirique où on se donne plus de liberté, on sait bien qu'il y a des choses que les journaux ne montreraient pas, ou qui sont peut-être trop extrêmes, ou qui sont peut-être trop borderline, comme on dit. Moins dans nos dessins d'une manière naturelle, on peut appeler ça de l'autocensure, mais disons c'est des fois peut-être un terme un peu trop fort, l'autocensure. Disons qu'on travaille dans les limites qu'on estime qui sont justes. Et des fois, on peut avoir aussi des débats avec les rédacteurs des journaux, d'accord, qui peuvent ne pas vouloir un dessin et puis on peut finir par les convaincre ou être convaincu par eux. Donc il y a un dialogue toujours qui s'installe.
D'accord.
Disons que d'une manière générale, c'est vrai que je veux rebondir sur cette question, mais aussi la rattacher à la précédente. Le problème avec les religieux, c'est que quand on les caricature, et pour les bonnes raisons, d'accord, les bonnes raisons pour lesquelles on les caricature, on est immédiatement taxé par eux d'antisémites. Parce qu'immédiatement, ils nous brandissent les caricatures des juifs tels qu'ils étaient représentés dans les caricatures antisémites au siècle dernier, dans la presse allemande, dans la presse collaborationniste. Et c'est pas un argument. Je le disais dans un article que j'ai écrit, si les religieux n'étaient pas à la Knesset, j'aurais aucune raison de les dessiner. Je parle des orthodoxes, hein. J'aurais aucune raison de les dessiner. Moi, je suis pour que chacun... je respecte les tolère et je respecte les croyances de chacun, même si certaines me sont tellement étrangères, mais voilà, je pense que c'est la force de la laïcité, c'est qu'elle permet l'exercice de toutes les religions.
Est-ce qu'on note une résistance des caricaturistes, des dessinateurs de presse au coup de boutoir porté par le gouvernement sur la liberté de la presse?
Je pense que le dessinateur, vous me posez la question de ce qui a changé depuis le 7 octobre. Je pense qu'il n'y a pas suffisamment de perspective historique pour pouvoir évaluer et donner une réponse à cette question.
D'accord.
Mais j'ai l'impression que plus on s'enfonce dans cette guerre, moins nos otages reviennent, même si aujourd'hui on est peut-être au bord d'un nouvel accord. Il n'y a rien d'acquis, il n'y a rien de signé, il n'y a rien de sûr. Je pense que les dessinateurs, comme la société civile, se mobilisent beaucoup dans la critique du gouvernement aussi. Pas uniquement dans la critique de nos voisins, pas uniquement dans la critique du Hamas, mais aussi dans la critique de la politique actuelle. Alors, il y en a qui la soutiennent, il y en a qui ne la soutiennent pas. Le pays est divisé. Bibi Netanyahu a divisé le pays pour régner. La preuve, il règne depuis 15 ans et le pays est divisé. Donc, je pense qu'il y a, il y a pas mal de dessinateurs qui ne se retiennent pas de le dire, de le dessiner, et ça passe.
Une dernière question pour conclure, Michel. Est-ce que dans la situation actuelle, les Israéliens arrivent encore à rire? Est-ce que l'humour juif légendaire a-t-il encore une place en Israël?
L'humour juif en Israël est devenu l'humour israélien. Parce que l'humour juif, c'était justement, en diaspora, c'était l'humour des juifs qui étaient brimés, qui étaient persécutés, qui étaient dans des situations de faiblesse. Et ils avaient un humour qui était aussi une forme d'autodérision, qui était très spécifique et qu'on appelait l'humour juif. Mais en Israël, la situation a complètement changé. Il y a un humour israélien. Disons qu'après le 7 octobre, la grande émission satirique phare qu'il y a à la télévision qui s'appelle Eretz Nehederet, un pays merveilleux, ils ont mis un petit temps à se ressaisir et à pouvoir recommencer et à pouvoir ouvrir leur nouvelle saison. Et on peut comparer ça à ce qui s'est passé avec le Charlie Hebdo des survivants. D'accord, ça a mis, je ne sais pas, 2 semaines. Et après, il a fallu reformer une nouvelle équipe avec des nouveaux dessinateurs. Et le numéro des survivants s'est vendu à 2 millions d'exemplaires. D'accord, tellement que les gens ont voulu montrer leur soutien à cette liberté qu'ils avaient. Et je comprends un peu ça à ce qui s'est passé ici, par exemple, avec une émission satirique où tout le monde rigole et on se rend bien compte. Il y en a deux ou trois des émissions satiriques comme ça sur des chaînes de télé. C'est quand même quelque chose qui fait du bien. On a besoin de rire, mais d'un autre côté, il y a dans la société israélienne des familles entières qui sont entourées par d'autres familles qui le soutiennent, qui ne sont pas capables encore de rire.
Bien sûr.
D'accord, il y a une espèce de climat de deuil qui n'est pas fait, de gouvernement qui est resté en place après la catastrophe du 7 octobre et de la droitisation et de la mainmise de la religion qui est de plus en plus forte et qui veut notamment limiter la liberté d'expression dans les médias et aussi dans le monde des arts. Donc il y a quelque chose qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la force de rire ou envie de rire, mais d'un autre côté, c'est un réflexe qui est vital pour beaucoup, beaucoup de personnes, qui est salutaire.
Eh bien, merci Michel Kishka, et une bonne année à vous et à tous et à toutes, et avec l'espoir de trouver prochainement le chemin de la paix et la libération des otages. Bon courage à toi.
Merci.